Francine,
oui.
C'est un grand moment pour vous.
Bonjour Bruno.
Bonjour.
Oui, alors mon collègue Yvan Deslauriers, juste avant que vous entriez en onde, vous a présenté notre segment en disant enfin Francine, vous allez pouvoir interviewer votre idole, Bruno Guglielminetti. J'ai dit, ben je le connais un peu Bruno, puis je pense qu'il sera pas à l'aise avec cette présentation-là, mais... Je l'ai quand même répété. Ça va bien?
Ça va très bien, merci de l'invitation.
Oui. Ben Bruno, moi j'avais le goût qu'on se parle parce que, bon, premièrement, je vous cite souvent. Alors, c'est ce pourquoi vous êtes devenu mon idole.
Et alors, puis, voilà pourquoi mes oreilles me cillent.
Ben c'est ça, mais je sais que vous êtes modeste, vous êtes capable de prendre ça. Et la semaine dernière, entre autres, j'ai accroché sur une entrevue que vous avez publiée dans votre carnet et ça portait sur l'accessibilité numérique.
Ouais.
Alors, je voulais vous entendre là-dessus, qu'on parle des enjeux, finalement, parce qu'il y en a beaucoup, puis il me semble que le train va tellement vite que je ne sais pas, quand on parle de ça, si ce n'est pas une discussion qui est un peu théorique.
Ben, elle n'est pas théorique pour les gens qui ont de la difficulté à accéder à l'information qui est publiée à un rythme fou sur les différentes plateformes qui nous alimentent dans le quotidien. Et c'est pour ça que je dirais que c'est presque une marotte de mon côté, mais j'aime ça ramener, et là, c'était une entrevue que mon collègue Jean-François Poulain a réalisée avec une experte dans le domaine.
Oui,
et
pour Céline moi, c'est... Bouillon, hein, c'est ça?
Exactement, oui. Ouais. Et pour moi, c'est important de ramener ce sujet-là sur la table parce que parmi les auditeurs puis les lecteurs de mon carnet, il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans le domaine et c'est de leur ramener l'importance de s'assurer que ce qu'ils font, peu importe la plateforme, ce soit accessible au plus grand nombre de lecteurs et d'auditeurs possibles. Et puis, ben, j'étais content quand vous m'aviez dit que vous aviez noté cette entrevue-là parce que c'est justement ce que je veux faire. L'idée, c'est de ramener le sujet pour que les créateurs soient conscients.
Est-ce que la responsabilité incombe seulement aux créateurs?
Ben non, la précarité, elle commence d'abord au donneur d'ordre, c'est-à-dire que une entreprise qui contacte un créateur d'une application mobile, d'un bon vieux site web ou de toute autre plateforme, si ça ne fait pas partie de sa commande au créateur qui va générer la plateforme, ben probablement que ça ne fera pas partie de leurs préoccupations. Et c'est pour ça que la genèse, elle part de si ce sujet-là n'est pas amené et ramené plusieurs fois par année dans le décor, ben je vais dire, les clients qui vont demander, qui vont penser à développer de telles plateformes ne vont pas l'inclure dans leur wish list, si vous me permettez d'utiliser l'expression. Puis, on va passer encore à côté avec une initiative. Puis, bon, si le site web est éphémère et ne doit pas durer longtemps, je n'ai pas trop de problème avec ça. Mais des sites web, des mobiles ou du web traditionnel là, par ordinateur ou une application, si elle devient populaire, puis qu'au départ, on n'a pas pensé à ce qu'elle soit accessible à un plus grand nombre, bien là, on a un méchant problème. Et c'est pour ça que c'est important que à la fois les clients, puis à la fois les concepteurs, les créateurs aient ce besoin, puis cette réalité en tête.
Est-ce que vous observez, là, parce que vous êtes constamment dans ce milieu-là, est-ce que vous observez une certaine progression? Est-ce que plus d'ouverture ou encore une certaine attention quand justement on va bâtir des sites, des plateformes, etc., à ce que ça soit quelque chose qui est inclusif, qui est accessible?
Ben, disons que, et puis avec des discussions que j'ai eues avec des gens pour qui c'est important, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a de plus en plus, mais pas nécessairement, c'est affreux de rire ça, mais pas nécessairement parce que les gens veulent que ça soit ou veuillent que ça soit accessible. Et je m'explique, c'est que de plus en plus, dû à ce qu'on appelle la SEO, donc qui sont les systèmes qui permettent l'indexation des sites web, puis vu l'arrivée de l'intelligence artificielle, on veut s'assurer que tout soit accessible, détectable et puisse avoir la plus grande portée possible. Le meilleur exemple, c'est probablement tout ce qui est vidéo sur YouTube. Ben, aujourd'hui, et même les nouveaux podcasts qui sont disponibles sur Apple Podcasts, aujourd'hui, de facto, par défaut, et YouTube et Apple ont enclenché la transcription des contenus. Et ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour quelqu'un qui a de la difficulté à entendre ou qui a de la difficulté à voir. Ben là, maintenant, il a accès à ce contenu-là. Mais c'est pas parce que les créateurs ont eu, oh, la généreuse idée de dire on va s'assurer que le maximum de gens puissent avoir accès à notre matériel. C'est juste que pour eux, pour leur référencement, ça devient plus rentable d'ajouter la transcription, d'ajouter le descriptif. Et c'est pour ça que les choses s'améliorent, mais pas vraiment par la générosité des gens qui le créent, mais bien parce que c'est quelque chose qui est rentable. Et parlant de la rentabilité, je pense que c'est Jean-François Poulin qui, à un moment donné, me racontait, et il est revenu avec ça, malheureusement, j'ai pas le chiffre en tête, mais tout le domaine de l'accessibilité, que ça soit dû à des handicaps ou que ça soit dû à des besoins, on parle de milliards de dollars en valeur.
55, Bruno, je m'excuse, là,
Ben
j'ai
merci.
pris votre source, alors c'est 55 milliards de dollars
Ben c'est énormément
au
d'argent.
Canada.
Exact. Oui, seulement au Canada. Et c'est énormément d'argent. Et moi, je suis toujours surpris de voir que les gens ne se fendent pas plus le popotin pour accéder à ce marché-là, qui est un beau marché. Et c'est Shakespeare qui parlait du low hanging fruit. Ben, c'est un public qui est là. Et si on le sert, il va venir faire son tour parce qu'il va se sentir ben, apprécié, il va se sentir désiré. Mais bon, il faut faire le geste et ça, c'est pas toujours la priorité de tout le monde.
Alors, vous êtes allé au-devant d'une de mes questions parce que j'allais justement vous demander, comme l'économie mène le monde, puis que c'est souvent un argument de poids dans à peu près tout, est-ce que justement, quand on met des chiffres comme ça sur la table, que ça secoue pas les donneurs d'ordre et autres producteurs?
Ouais. Ben moi, je sais que chaque fois qu'on a mentionné le montant dans mon carnet, j'ai toujours eu des réactions et j'ai toujours vu des petites vaguettes autour d'initiatives qui étaient annoncées, des gens qui m'en reparlaient. C'est un chiffre qui est assez magique. Parce que c'est un gros marché, c'est un gros public qui est mal desservi encore, malgré les améliorations. Et c'est sûr que, mais encore là, il faut le connaître, ce chiffre-là, et il faut le propager.
Bruno, dans le domaine de l'intelligence artificielle, on est inondé d'informations. On a l'impression là que on a essayé de prendre un poisson là, mais qui nous a totalement glissé entre les mains. Alors, est-ce qu'il est trop tard pour justement faire de l'adaptabilité, de faire de l'inclusion, de l'accessibilité? Est-ce que c'est parce que, comme vous le disiez si bien au début, ben il faut faire ça en tout premier lieu, avant de rendre ça public. Alors, est-ce qu'il est trop tard pour l'IA?
Non, il n'est pas trop tard. Et permettez-moi de reprendre votre image du poisson huileux. Moi, je dirais plutôt que c'est un gros cochon graissé. Parce que
J'étais
ça
peut-être
dé.
plus poli, là,
Oui,
Bruno, je
ben,
sais
c'est ça.
pas.
Mais je me permets d'être peut-être plus grivois. Mais non, puis l'analogie au cochon, c'est parce que ça prend énormément de place. Il y a des industries qui vont être piétinées. Par l'intelligence artificielle. Il y a des corps de métier qui vont en être victimes, mais à l'inverse, il y a d'autres corps de métier qui vont apparaître avec ça. Le meilleur exemple, j'en parlais, ben, je pense que c'est la semaine passée, avec François Dompierre. Je voyais un reportage à la télé française où on nous présentait un compositeur d'intelligence artificielle. Et ce monsieur-là, il connaissait pas du tout la musique. Il lit pas la musique, il écrit pas la musique, mais il est capable de faire des requêtes à l'intelligence artificielle en texte et de générer de la musique. C'est un compositeur assisté à l'intelligence artificielle. Et pour un François Dompierre, qui lui a passé sa vie et encore aujourd'hui à créer des œuvres qui sont interprétées par des musiciens, par des orchestres symphoniques, il trouvait ça quand même formidable. Parce qu'il dit, bon, c'est de la création quand même. Mais c'est ça. Alors, on est dans un domaine en constante évolution et j'allais dire pire. Et c'est le cas, mais fois mille, avec l'intelligence artificielle. Écoutez, seulement hier, ça a été un tremblement de terre ou un tsunami. Prenez l'image qui vous intéresse le plus. Il y a OpenAI qui a présenté son outil qui s'appelle Sora. et qui, c'est pas disponible, là. Allez pas le chercher, là. C'est en circuit fermé. Il y a quelques utilisateurs qui l'ont eu mais on voit, là, une trentaine de vidéos qui ont été créées par cet outil-là qui commence à être disponible sur les réseaux sociaux. C'est capable, à l'aide d'une requête en texte, de générer 60 secondes de très beaux vidéos. Mais vraiment une image là, exceptionnelle. Et moi, ce que ça, quand j'ai vu ça, après avoir dit wow et après avoir refermé ma bouche, parce que j'avais la mâchoire qui était pendante, je me suis dit ouais. Mais là, si il y a des acteurs et il y a des scénaristes qui sont sortis sur les rues, dans les rues à Hollywood, parce qu'ils avaient peur pour leur avenir. Ben là, je vais vous dire qu'il y a des directeurs photos, des caméramans et des
Ouais.
réalisateurs qui vont se poser des questions. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, elle évolue. Et il y a des besoins qui ne sont pas encore, permettez-moi d'utiliser l'anglicisme, adressés et qui pourraient l'être. Mais il faut y penser, il faut réfléchir. Et comme disait à l'époque Apple, there's an app for that. Il y a une intelligence artificielle qui pourrait faire le travail. Maintenant, il faut savoir c'est quoi les besoins et arriver à programmer quelque chose. Et donc, bref, pour répondre simplement à votre réponse, il n'est pas trop tard.
Bon, mais merci Bruno. On va continuer à taper sur le clou. Soyez sans crainte parce que c'est vraiment la mission de Canal M. Et ben à une prochaine.
Ben, merci de l'invitation.
Au revoir Bruno,
Au
merci.
revoir.